15h38.
Quelle organisation est maintenant en charge donc de responsabiliser les crimes de guerre en Syrie?
Alors, il y a deux choses. Il y a d'un côté la question ou le volet politique. Aujourd'hui, dans toutes les négociations qui seront à Genève, comme à Astana, comme les négociations bilatérales, etc., il n'y a jamais sur la table quelque chose qui est relié à la justice. Et donc, aux dizaines de rapports déjà produits par des organisations internationales, par la Commission onusienne des droits de l'homme, par des organisations syriennes de droits de l'homme, on n'évoque jamais la question des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui ont été commis. Donc, il y a d'un côté une absence de volonté politique de travailler sur ce sujet-là. Et la justification qui est donnée par certains acteurs, c'est qu'on ne peut pas avoir une solution politique si on évoque en même temps des tribunaux et on parle de crimes de guerre. Et cela veut dire, ou veut sous-entendre que Assad, qui reste et qui fait partie d'une transition, comme les Russes et les Iraniens le veulent, on ne peut pas parler de son jugement ou de parler de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité qu'il a dû faire tout en essayant de trouver un compromis avec ses sponsors, Moscou, Téhéran, et donc avec lui au pouvoir après. Donc il y a cette absence de volonté politique d'un côté. Et moi, je pense que ça, c'est extrêmement dangereux et ça va au-delà de la Syrie. Parce que le message qu'on envoie aux Syriens, comme au peuple de la région, c'est que le droit international, les conventions de Genève, ce qu'on appelle les lois de guerre, ne s'appliquent pas chez vous. Donc si quelqu'un est accusé d'avoir commis des crimes de guerre, d'avoir massacré une partie de sa population, si c'est nécessaire de faire des accords politiques avec lui, on peut le faire. D'ailleurs, toute l'équation qui dit « oui, mais en face de lui, il y a Daesh, donc vaut mieux le soutenir que d'avoir Daesh » rentre dans cette logique-là. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas dire si on veut véritablement combattre Daesh et combattre des phénomènes pareils. Parce que c'est l'impunité qui règne dans le Moyen-Orient depuis de longues décennies qui invite des monstres à commettre des crimes sans avoir peur des conséquences en disant que toujours on peut trouver un accord, un deal, parce que le droit international ne s'applique pas chez nous. Donc ça, c'est le côté politique. Maintenant, le côté juridique et qui pose problème dans le cas syrien, la Syrie d'Assad n'a jamais signé le traité de Rome qui permet à la Cour pénale internationale de saisir automatiquement un dossier qui est relié au pays signataire si jamais il y a des soupçons de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Donc le tribunal ou la Cour pénale ne peut pas enquêter en Syrie sans que le pays soit lui-même signataire, ce qui n'est pas le cas des Assad qui ont évidemment jamais signé cet accord ou ce traité. En revanche, l'autre alternative, c'est que le Conseil de sécurité, même si un pays n'est pas signataire, il saisit la Cour pénale et demande d'examiner des cas où il y a des soupçons de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Ça peut être les attaques chimiques, ça peut être la torture et les exécutions dans les geôles du régime, comme on a vu dans le rapport de Amnesty et de Human Rights Watch, ce qui se passe dans ce que eux ils ont appelé l'archipel de la mort ou de la torture. Ça peut être aussi des bombardements contre des convois humanitaires, ça peut être des bombardements systématiques d'hôpitaux. Il y a beaucoup de cas et de dossiers qui peuvent aller à une cour pénale ou à un tribunal spécial, mais là c'est le Conseil de sécurité qui peut saisir la Cour. Et évidemment, avec les vétos russes et chinois, mais c'est surtout russe, cela n'est pas possible pour le moment. Est-ce qu'il y a des alternatives? Oui, il y en a. Il peut y avoir des tribunaux spéciaux. Peut-être il faut voir si l'Union européenne peut faire quelque chose, ou bien si dans certains pays européens, ce qui commence d'ailleurs à être le cas, des ressortissants de ces pays-là, mais étant syriens en même temps, donc des binationaux, peuvent se référer à des droits, à des conventions dans les pays concernés pour évoquer un crime commis contre eux, contre un membre de leur famille. Et il y a déjà en France deux enquêtes parce qu'un père et son fils qui sont binationaux sont disparus. On ne sait pas ce qui leur est arrivé. Ils ont été arrêtés par le régime il y a quelques années et depuis, aucune nouvelle. Leur famille craint que, soit ils ont été tués sous la torture, soit on ne sait pas où ils sont de toute façon. Il y a en Espagne un cas également qui est relié à la torture et à l'exécution d'un prisonnier qui a la double nationalité ou la famille là. Et puis il y a en Allemagne des cas reliés à des crimes, à de la torture et à des viols. Surtout que le viol aussi, quand il est collectif, il est considéré comme un crime de guerre, voire plus dans certaines résolutions. Donc il y a beaucoup de choses à faire s'agissant de la Syrie, mais tout cela nécessite la volonté politique et nécessite de montrer que l'impunité ne doit pas régner, ne doit plus régner. Sinon, si juste c'est Daesh et on combat Daesh, la bataille ne sera pas gagnée sans voir les raisons qui permettent à des créatures comme Daesh d'émerger. Donc ça, je pense, est très important pour le futur, pour l'avenir de la Syrie, même pour éviter après des vengeances, pour reconstruire ou aider à reconstruire le tissu national syrien. Il faut des tribunaux, il faut une justice, il faut s'inspirer d'expérience dans la matière, que ce soit ce qui s'est passé dans l'ex-Yougoslavie ou bien au Libéria, que ce soit des Truth and Reconciliation comme ça s'est passé en Afrique du Sud, mais ça c'est une autre démarche évidemment. Donc, mais il faut faire quelque chose pour que l'impunité ne reste pas à l'ordre du jour comme elle est aujourd'hui.
Oui, parce qu'on avait vu également ben, en 2013, lors des attaques chimiques sur la Ghouta, c'était quand même assez flagrant. Les observateurs donc des Nations Unies qui se sont rendus sur le terrain ont rendu des rapports qui ne nomment pas les responsables de ces attaques chimiques. Ça aussi, c'est un problème. Donc,
Tout à fait. Dans le cas spécifique du rapport de la Ghouta, les Nations Unies, dans leur résolution ou dans la décision qui a été faite pour cette enquête-là, pour juste confirmer s'il y a eu usage d'armes chimiques ou pas, c'était la condition russe de ne pas désigner les coupables, sinon il y avait veto russe. Donc la résolution a été réécrite pour que ça soit juste une confirmation d'usage ou pas, sans désigner les coupables. Par contre, il y a d'autres rapports qui ont été faits par des commissions onusiennes qui se sont rendues sur place ou qui ont souvent eu accès à des documents officiels parfois, à des papiers, à une documentation qui a évoqué les tortures dans les prisons, qui a évoqué les attaques. Récemment, le rapport sur l'attaque contre le convoi humanitaire à l'entrée d'Alep. C'était clair aussi qu'ils ont désigné le régime en parlant des armes utilisées, en parlant de la frappe aérienne, en disant que lors de cette frappe aérienne, les radars montrent que l'aviation de la coalition internationale était à 50 km, donc était loin du lieu, en disant que c'est un Sokhoï, le type d'avion qui a bombardé, vu les traces et vu le missile qui a été utilisé. Et donc les Sokhoï, c'est soit le régime, soit les Russes. Donc ils ont quand même désigné clairement qui est responsable contre l'attaque de ce convoi humanitaire qui devait rentrer à Alep Est avant sa chute. Ils ont également parlé des sièges et du fait que la politique de la faim est utilisée par le régime contre des zones. Il y a même une résolution onusienne qui parle de la nécessité de finir avec ces sièges-là, d'avoir des couloirs humanitaires, et de rien n'a été fait. Donc, encore une fois, c'est la volonté politique qui manque, c'est la fermeté, la détermination, et malheureusement, c'est le rapport de force aujourd'hui que les Russes ont imposé en Syrie militairement, comme ils l'imposent politiquement à travers le droit de veto dans le Conseil de sécurité, qui fonctionne. Et je pense que la question syrienne révèle un malaise profond au niveau du fonctionnement du droit international, mais aussi de certaines institutions comme le Conseil de sécurité. Et je pense que c'est le moment de se poser encore une fois, pour une millième fois peut-être, à quoi sert le droit de veto aujourd'hui? Si après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des prérogatives claires, il y avait une volonté d'éviter de nouvelles escalades, de nouveaux conflits, en disant que les 5 États nucléaires peuvent avoir ce droit-là, pour ne pas permettre à un camp d'imposer une vision, une décision, cela est derrière nous aujourd'hui. Donc soit il doit y avoir une réforme radicale qui en finit avec ce droit-là, soit de dire que le droit de veto ne peut pas être utilisé s'agissant de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Sinon, ce droit-là est juste pour protéger les criminels ou pour rendre leur poursuite judiciaire extrêmement difficile. Donc, la série dépasse dans son malheur le cadre géographique ou le cadre territorial de son conflit pour toucher beaucoup de choses dans le monde d'aujourd'hui, dans la banalisation du mal dans ce monde-là, dans les crises de réfugiés, dans les crispations identitaires. Ça a mené à découvrir ou à faire surgir beaucoup de démons dans nos systèmes, dans nos sociétés, dans notre relation avec une guerre qui se déroule à 4 heures de Paris, à 1 heure de Beyrouth. C'est-à-dire, c'est vraiment un problème juste à côté de nous. Et quand même, il n'y a pas une véritable volonté, il n'y a pas un courage pour essayer de le voir clairement et de dire les choses et d'assumer les responsabilités.